Bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent sur l'Internet. On est bien content de vous avoir avec nous ce matin. Eh bien, ce matin, c'est un peu spécial. Vous avez remarqué que j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce matin trois invités qui ont bien accepté de venir avec nous. Vous avez Pierre Mayette, c'est trois frères qu'on apprécie beaucoup à l'Église, on les aime énormément. Et puis, tu as Pierre Mayette ici. Pierre travaille depuis avec Martine depuis quand même un bon moment avec les couples. Et il fait du coaching, il suit certaines personnes, beaucoup d'expérience. C'est lui qui donne le cours de préparation au mariage. Et vous avez ici Sylvain et Lynn, qui travaillent depuis un bon moment avec les couples. Ils sont occupés régulièrement à rencontrer des couples. Et puis, pas juste des couples, ils font du coaching et tout ça. Et puis, ils sont allés chercher une expertise aux États-Unis pour travailler avec, faire de la relation d'aide biblique. Et nous avons évidemment Alex, le pasteur ici, qui travaille avec, qui enseigne sur la famille dans le groupe Connexion. Et puis, évidemment, il fait du coaching, il enseigne et tout ça. Alors, c'est trois personnes qui ont beaucoup d'expérience avec la famille, les couples, les célibataires. Là, vous allez dire, ouais, mais mon ami, ça fait pas mal gars ce matin. Il y a pas mal de testostérone sur l'estrade ce matin. Où sont les femmes? Bien, il y a deux raisons pour ça. Premièrement, c'est dimanche, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est quoi? Super Bowl! Come on! T'es une affaire de... Je sais qu'il y a des femmes qui aiment beaucoup, beaucoup le Super Bowl. Mais la seconde raison, et c'est la plus importante, c'est que ce matin, on va parler des gars. On veut parler des hommes. Et puis, oui, hein, les femmes disent « Amen, enfin! » Eh bien, ouais. Oui. J'entends toutes sortes de commentaires là, en ce moment. Oui. Et puis, bien, on ne vous négligera pas, mesdames, c'est que la semaine prochaine, on va enseigner un passage qui parle des femmes. Et dans deux semaines, on va avoir un panel ici de femmes. Donc, on fait les deux. Oui, hein? Aujourd'hui, on veut se concentrer sur un verset. Qui parle des hommes, mais on va parler de plusieurs versets, évidemment. Vous savez que dernièrement, on est en train de faire une série sur 1 Timothée, la première lettre à Timothée. Et puis, on a comme pour thème la maison de Dieu. Et puis, ce thème s'inspire du troisième chapitre, en fait, où Paul va dire à Timothée, « Écoute, Timothée, je t'ai laissé à Éphèse, si je tarde à venir, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour mettre de l'ordre un peu dans l'Église. L'Église à Éphèse avait des problèmes. Et puis, tu vas savoir comment faire l'Église, en quelque sorte, pour que, de manière que ça adore, que ça glorifie Dieu, que ça honore Dieu, en attendant que j'arrive. Alors, toute la lettre de Timothée sont des principes. C'est des principes sur l'Église, des choses sur notre vie quotidienne, comment honorer Dieu. Et Paul va commencer avec le premier chapitre qui va montrer l'importance de revenir à la mission première. Ce qui arrive, c'est que l'Église d'Éphèse s'était éloignée de la mission de faire des disciples. Alors, ce que l'apôtre Paul va faire, il y avait toutes sortes de problèmes, de litiges dans l'Église d'Éphèse. Il y a des gens qui enseignaient sur des erreurs sur la généalogie, sur le mariage, sur l'alimentation et tout ça. Et Paul veut écouter, puis il y avait la bisbille, des conflits entre les membres. Paul est en train de dire, vous êtes en train de toutes ces histoires-là dans l'Église, vous êtes en train de négliger l'avancement du royaume de Dieu. Donc, il veut ramener l'Église à sa mission de faire avancer l'Évangile, d'avoir un impact autour de nous pour que les gens puissent venir à Jésus-Christ. Donc, il va commencer son deuxième chapitre en nous invitant à prier pour le gouvernement et prier pour tous les hommes, femmes, afin qu'ils puissent venir à l'Évangile. Il va commencer à dire, prier pour le gouvernement, pour qu'on ait un bon gouvernement, de sorte qu'ils puissent nous laisser la liberté de pouvoir propager l'Évangile. On a remarqué la dernière fois qu'on était ensemble que Paul va prendre le même langage qu'il va prendre dans la lettre aux Thessaloniciens, et c'est collé à gagner des âmes pour Jésus-Christ, alors qu'on prie pour le gouvernement. Donc, c'est lié. Ce n'est pas qu'on prie pour le gouvernement pour qu'il réduise nos taxes. Ce n'est pas le but, quoi qu'on aime bien ça, mais le but, c'est vraiment le progrès de l'Évangile et avoir un impact dans la société, qu'on voit des gens de plus en plus venir à Jésus. Et Paul va donner deux raisons, presque trois dans le fond, il va donner deux raisons pour qu'on prie pour le salut des âmes, le salut des gens. La première, c'est que le Dieu d'amour. On a un Dieu plein de compassion qui veut voir les gens venir à Jésus. Ça, c'est le verset 3, chapitre 2, verset 3. C'est agréable à Dieu qu'on prie pour ça, que les gens viennent à Christ, parce que Dieu a à cœur les gens. La seconde raison, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus a payé pour nous acquérir le salut. C'est fait. Le sacrifice a été offert, c'est parfait. Et il va même donner une troisième raison, dans le fond, qui est un peu, qui est son appel. Il dit, c'est pour ça que Dieu m'a choisi comme apôtre pour propager l'Évangile. Alors là, il va se tourner aux hommes. Et le thème du chapitre 2, c'est de prier et vivre pour l'Évangile. Alors, comment on fait ça chez les hommes? Et comment ça se fait, ça? Ça se traduit comment demain matin à 8 heures, là, pour nous autres, les gars? Après ça, il va aborder la question des femmes. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que ce matin, on se consacre sur un verset qui touche les hommes, et ensemble. Et la semaine prochaine, je vais enseigner le passage, un passage qui est compliqué, qui est un passage sur les femmes juste après, 9 à 15. Et la semaine suivante, on va avoir un panel avec des femmes. D'accord? Alors, ce matin, ce qu'on veut regarder, c'est le verset 8. Je vous invite à tourner dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Timothée 2, 8. Vous êtes là? OK. Qui dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni arrière-pensée. Alors, un verset. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni arrière-pensée. Maintenant, il y a quatre mots ici importants. Regardez, j'ai mis ça en rouge. Et là, je viens de voir qu'on ne voit absolument pas de rouge. Ah oui, vous voyez, nous autres, on ne voit pas tellement bien, là. Parfait. Je veux donc que les hommes prient, donc il y a une question de relation avec Dieu, la prière, et en élevant des mains pures, donc on parle de sainteté, sans colère. Est-ce que vous vous mettez en colère des fois? Et ni arrière-pensée, d'accord? On veut regarder ça ensemble. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la prière, ça parle d'approfondir notre relation avec Dieu, mener une conduite édifiante, de sainteté, développer son caractère. On parle de caractère quand on parle de colère. Et penser à vos pensées. Là-dedans, là, ça roule, hein? Fait que gérer nos pensées. Donc, moi, j'ai un beau panel à côté de moi. J'ai des gens qui travaillent depuis des années avec les couples et tout ça. Donc, je vais commencer une première question. On parle d'un homme qui prie dans ce passage. Ça commence avec ça. C'est dire que la personne a une relation avec Dieu et tout ça. Alors, est-ce que c'est important, ça? Le Seigneur demande aux hommes de prier ici. Est-ce que ça fait une différence, prier? Pour les gars, hein? Évidemment, ça s'applique aux femmes, mais on voit ailleurs, tu sais, que les femmes sont appelées à prier aussi. Mais on parle ici des gars. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, les gars?
Un.
Oui, ça serait bon.
Moi, un, deux. Tout vert. Ah.
Non, là, tu viens de mettre la vidéo.
Vas-y, Sylvain. Vas-y, Sylvain. Le premier à casser la glace.
Ben, ça semblerait que ça, c'est... Une intervention divine, ton micro ne marchera pas, Pierre. Ça,
il marche.
Tu vas être obligé de casser la glace. Tu dois avoir le micro à Gilles Farley. Là.
Non, je pense qu'il a fait exprès.
Il a fait exprès. Alors, la prière, c'est un aspect de la vie chrétienne qui est très important, qui nous amène dans la proximité de la relation avec notre Dieu. Certains, dans les Écritures, on voit plusieurs endroits où on est demandé de prier. Prier, c'est venir dans l'intimité avec notre Sauveur, c'est venir dans l'intimité avec notre Dieu. Et c'est primordial à la vie chrétienne. Et c'est certain que ça se développe. Les premiers temps que je suis venu au Seigneur, j'écoutais les frères et sœurs prier. C'était à fréquenter des gens qui priaient. Que j'ai développé ma vie de prière. Et c'est à entendre les autres prier. Ensuite, on a eu des conférences sur la prière ici à Gatineau qui nous ont enseigné l'intimité. En fait, j'étais bien étranger à l'intimité. Intimité avec mon épouse, intimité dans la relation avec mon papa céleste, intimité dans ma relation avec mon papa terrestre, ma maman terrestre. Et ça, je l'ai découvert au fur et à mesure que Dieu se révélait à moi, puis qu'il me donnait l'importance de l'intimité puis de la proximité dans mes relations. Mes relations horizontales et mes relations verticales. C'est pas pire, hein? Verticales. Alors, c'est certain qu'au fur et à mesure qu'on avance, on découvre, puis on travaille avec les gens seuls, on travaille avec les couples. Puis l'important, c'est d'apprendre à courir à Jésus comme un enfant. Dieu, il aime quand on dépend de lui. Dieu, il aime quand on développe cette relation-là avec lui. Et il veut qu'on apprenne à courir à lui en toutes circonstances. Puis la prière, c'est mieux que le texte. C'est mieux que n'importe quel système technologique que vous allez pouvoir vous acheter. C'est gratuit. Puis Dieu est disponible en tout temps. Puis il attend que vous communiquiez avec lui. Il veut une relation proche, intime avec vous.
Pierre? Oui, je vais ajouter quelque chose ici. Comme Sylvain a dit, la prière, c'est notre façon de communiquer avec Dieu. Dieu, il veut communiquer avec nous. Il veut avoir cette relation intime-là avec nous. Il veut parler à notre cœur. C'est ce qu'il désire le plus. Si on fait un parallèle avec la vie de couple, bien, c'est ce que nous aussi, on veut avec notre partenaire, notre conjoint, notre épouse. Puis, je dirais qu'au début de la relation, durant les fréquentations, on n'a pas de problème à communiquer. Et puis, quand on regarde la communication, il y a plusieurs niveaux de communication. Puis, si on va au dernier niveau, le cinquième niveau,
qui est le meilleur,
mais c'est un niveau où on devient très vulnérable. On devient transparent, authentique, puis là, on met vraiment qui on est sur la table, puis là, on parle des vraies affaires. Mais ce n'est pas toujours évident dans les couples. Puis on va voir dans le verset que Paul apporte d'autres éléments dans la prière qui fait en sorte que des fois, ce n'est pas toujours évident de communiquer avec Dieu, spécialement si on n'est pas prêt à enlever nos barrières, puis à mettre nos guts à la table, là, puis vraiment être authentique et véritable avec lui. Alors, c'est drôle de voir le parallèle entre la communication avec Dieu, la relation que Dieu veut, puis dans le cadre du mariage, comment il a designé le mariage, comment il a fait le mariage, parce que c'est le même modèle, c'est la même chose qu'il veut pour nous dans le mariage.
Est-ce quelque chose à ajouter là-dessus? OK. Bien, Paul parle de... Alors, évidemment, on parle de prière, on parle d'une relation, comme les frères viennent de le mentionner. Alors, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Hein, ça commence avec une conversion à Jésus-Christ, de placer sa foi en Jésus, pour commencer à avoir une relation avec Dieu, et c'est ça que Dieu veut. Deuxièmement, Paul parle d'un autre domaine qui est important, c'est de mener une conduite qui est édifiante. Ça parle de sainteté. Alors, ça vous dit quoi, ça, vous autres, les gars, là?
Bien, moi, une des premières choses à laquelle ça me fait penser, c'est à un autre verset, dans une lettre que l'apôtre Pierre a écrite, la première épître de Pierre au chapitre 1, dans les versets 14 à 17, à un moment donné, l'apôtre Pierre va mettre en lien notre conduite de sainteté avec la nature de Dieu. Puis, dans ce passage-là, il va citer l'Ancien Testament quand Dieu a dit au peuple d'Israël, « Vous serez saints, c'est votre conduite, car je suis saint. » Fait que c'est vraiment intéressant que la motivation puis la raison pour laquelle cet appel-là qui nous est lancé par Dieu d'être saint, élever les mains pures, c'est directement relié même à qui Dieu est, à la nature de Dieu. C'est parce que nous prions un Dieu qui est saint, qu'on est invité à s'approcher à lui, à lui communiquer aussi avec les mains pures, avec une bonne conscience, dans la sainteté nous-mêmes. Tu sais. Je trouve ça intéressant, ce lien-là. Il y a un lien direct entre qui est celui à qui on s'adresse dans la prière et de quelle manière veut-il qu'on lui adresse notre prière. Je trouve ça vraiment intéressant.
Mm-hmm. Oui, d'autres éléments?
Oui, toujours dans le domaine de la pureté. Pour moi, ça fait un peu référence à notre avoir la conscience tranquille quand on vient à parler avec Dieu. C'est sûr que si notre vie n'est pas autant pas vers la sainteté, parce que je ne sais pas si en réalité c'est possible d'atteindre la sainteté ici avec notre environnement, avec qui on est aussi. Mais si on a des choses à se reprocher, on n'est pas, on se sent pas pur, ça va être difficile d'avoir cette relation-là avec Dieu. Un exemple qui est peut-être un peu difficile à aborder comme ça en avant de vous, là, mais mettons la pornographie. Quelqu'un qui a des problèmes avec la pornographie, on s'entend, peut-être qu'il n'est pas considéré pur, right? Ça parle beaucoup de cette définition-là. Et puis, ça va être peut-être difficile pour lui de se concentrer dans la prière si, à quelque part, il y a ce défi-là. Fait que, je crois que Dieu veut, encore dans l'objectif de communiquer avec nous, il veut qu'on soit vrai, qu'on soit authentique, puis qu'on n'ait pas peur de mettre justement ces péchés-là dans notre vie au pied de la croix, lui remettre, lui demander de l'aide pour nous aider à se libérer de ces péchés-là. En fait, c'est pour ça qu'il est venu ici. Il n'est pas venu ici pour nous accuser. Il est venu ici pour nous libérer. Il faut toujours garder ça en tête. Et puis, je vais faire le parallèle dans notre couple. Lorsqu'on parle de communication avec notre épouse, puis on veut être à un niveau intime, donc parler des vraies choses, bien, ça parle aussi de notre vulnérabilité. Puis souvent, les choses qui nous tracassent, on prend l'exemple de la pornographie, c'est pas toujours évident d'y aller avec ça dans le couple. Puis souvent, je me suis posé la question, jusqu'à quel point on implique notre épouse dans ce combat-là? Puis la réponse n'est pas simple. Des fois, oui, notre épouse peut être un allié important pour combattre ce problème-là. Puis parfois, c'est plus délicat, puis c'est peut-être mieux de ne pas impliquer notre épouse, mais plutôt d'aller chercher de l'aide ailleurs, un frère qui pourrait nous aider puis nous accompagner dans ce domaine-là. C'est bon.
Je vais faire du pouce un petit peu sur ce que tu dis, Pierre. Merci d'avoir ouvert la porte. Bien entendu, moi, quand je parle de sainteté, ce qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui fait obstacle? Puis, obstacle à ma relation avec Dieu, obstacle à ma relation avec mon épouse. Et Dieu, il veut qu'on tende vers lui des mains qui sont saintes, il veut qu'on tende des mains qui sont pures. Et la seule façon, la seule et unique façon de le faire, c'est d'être purifié par le sang de Christ. C'est de s'approcher de la croix, se rappeler qu'il a payé pour tout mon péché, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de demain. Et de la même façon, j'ai fait équipe avec mon épouse pour les combats dans ma vie. Puis, il y a des combats que ma femme, elle n'aime pas du tout. Il y a des combats qu'elle a que j'aime pas. Mais Dieu, il ne me demande pas de juger mon épouse, il me demande de prier pour elle. Il me demande de l'accompagner dans son combat. Et il me demande de la même chose, il demande à mon épouse de faire équipe avec moi. C'est pas toujours évident, c'est pas facile, c'est même difficile. Il y a des larmes. Il y a des choses qui sont très difficiles à avouer, très difficiles. La sainteté, ça, c'est pas juste une chose banale, c'est une chose qui nous appelle à nous, comme l'a dit Pierre, à nous dévêtir. Et Dieu veut qu'on se dévêtisse devant lui, il veut qu'on soit vraiment à nu devant lui, puis il veut qu'on admette nos torts, il veut qu'on admette qu'on n'est pas capable d'atteindre sa loi. Mais c'est pour ça que Christ est mort à la croix. Puis c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est le trésor qu'on a accès, nous, en tant que chrétiens. Alors, ma sainteté, c'est celle de Christ. C'est celle que je revais. C'est celle que Christ a payée pour moi et qui m'a procurée à la croix. Puis il a payé cher, très cher, pour me l'avoir. Il l'a payé de sa vie. Puis cette proximité-là qu'il avait avec Dieu, quand je pense à mon Dieu qui était cloué sur le bois pour moi, je pense à la proximité, l'intimité avec le Père qui a été rompue un instant pour payer pour moi. Et quand on lit les théologiens, on se rend compte que c'était le moment le plus difficile pour Jésus. C'est quand Dieu a tourné sa face contre lui et il a rompu cette relation-là. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on ait cette relation-là entre nous, frères et sœurs, puis qu'on ait cette relation d'intimité-là avec nos épouses. Oui, c'est le mariage, c'est la cellule la plus proche qui ressemble à la relation Père-Fils-Saint-Esprit. Mais on est tous appelés à vivre cette relation-là. Je prends ça à 1 Corinthiens 7, où il parle du mariage, puis qui termine en disant que même si vous voulez éviter de vous marier, vous allez avoir une meilleure relation avec Jésus. Mais si vous n'êtes pas capable de vous contenir, résister, au lieu de brûler, mariez-vous. Mais il dit quand même que le fait d'être célibataire, puis le fait d'être seul, ça n'enlève rien à votre relation avec Dieu. Ça n'enlève rien avec la proximité que vous devriez avoir avec Jésus. Puis cette proximité-là, elle se fait dans la sainteté. Puis comme je suis heureux que Christ ait payé à ma place le prix pour que je vienne dans la présence de Dieu puis que je puisse le prier.
Amen. Je pense qu'Alex avait un petit mot à dire.
Oui, je voulais juste... Je trouve ça vraiment bien, Sylvain, que tu as exposé ça parce que, tu sais... on a besoin des fois de définir qu'est-ce qu'on veut dire par sainteté. Je pense que tu l'as bien décrit. Puis ça me fait penser au fait que dans ce que tu as mentionné de ce que Jésus a fait pour nous, il a acquis notre sainteté par sa mort à la croix. Il nous a donné sa sainteté. Puis même à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, les apôtres, l'apôtre Paul et d'autres vont s'adresser aux chrétiens en disant qu'ils sont déjà saints. C'est ce qu'ils sont en Jésus-Christ. C'est même leur identité. La sainteté, c'est pas juste... Même quand Pierre dit « Vous serez saints, car je suis saint », c'est pas juste « Vous ferez des choses saintes ». C'est « Vous serez », c'est votre être, c'est ce que vous êtes. Et Jésus nous a fait devenir saints. Puis je pense que cet appel-là, c'est un appel de reconnaître à nouveau qui Dieu dit que nous sommes et de marcher dans... que notre conduite s'aligne avec notre identité en Jésus-Christ.
Ouais,
nous sommes saints, tu sais. Puis il a acquis par sa mort à la croix. Puis ça m'a fait penser, juste rajouter un petit quelque chose. J'étais à Montréal cette semaine avec Dominique King puis Étienne Saint-Louis. Puis on était dans une conférence. Puis un pasteur là-bas, Dominique Angers, nous a dit quelque chose de vraiment puissant. Puis une courte phrase que je pense résume bien ce qu'on est en train de parler, même au sujet de la sainteté. Dieu ordonne la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Il veut qu'on prie Dieu en élevant des mains pures. Mais le pasteur Dominique Angers dit, « Mais Dieu, dans sa grâce, donne ce qu'il ordonne. » Tu comprends?
Amen.
Dieu, dans sa grâce, donne ce qu'il ordonne.
Oui,
ça, pour moi, ça l'enlève un poids puis un fardeau. Oui. C'est pas une question de, « Mais là, il faut que je sois saint. Il faut que je fasse des efforts pour être saint. Il faut que je commence par mes propres forces à atteindre un standard de sainteté. » Non, Dieu nous l'a donné. Il nous déclare saint. Puis il donne dans sa grâce, ce qu'il leur donne. Quelle grâce!
Ah, ça, c'est bon, ça. Alors, toute la question d'identité et tout ça, majeur. Comment grandir dans notre sainteté? Aidez-nous, là. Je pense qu'on veut... Vous nous avez mis ce beau défi, on veut. Et maintenant, quels sont les moyens que Dieu nous fournit, justement, pour nous aider à grandir dans ça, dans la sainteté? Qui veut commencer?
Je dirais que la façon de demeurer dans la sainteté, Christ l'a bien exprimé dans Jean quand il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Il nous a donné plusieurs choses. Quand on prend la parole de Dieu puis qu'on l'ouvre puis qu'on commence à lire, c'est la pensée de Dieu qu'on lit. C'est pas une lettre qui a été écrite juste à lire de façon littéraire. C'est mon Dieu d'amour à mon Sauveur qui ont, par l'Esprit, ont donné à des hommes d'écrire, de m'écrire cette lettre d'amour. Et cette lettre-là, qui est la Bible, qui est le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est la lettre d'amour envers chacun de nous, puis vous pouvez le prendre intimement. Dieu, il ne s'attend pas à ce qu'on le prenne comme étant pour juste une certaine classe ou un certain groupe. Il s'attend à ce que c'est pour nous. C'est vraiment lié avec nous, avec notre cœur. Et ça touche tout le monde, mais en même temps, c'est tellement intime. C'est tellement personnel et approprié pour chacun de nous. Alors, on a un Dieu qui nous aime tous. On est tous des frères et sœurs en Christ. Mais en même temps, c'est tellement personnel. C'est tellement... Il s'adresse à chacun de nous. Puis, il veut qu'on jouisse de ça. Ça, c'est la première étape, c'est de connaître la pensée de Dieu. Il n'y a pas tellement longtemps, je parlais avec un jeune homme qui me disait, « Moi, je trouve que le mariage, c'est surévalué. » Puis ce que j'entendais dans la voix de ce jeune homme, ça m'a un peu bouleversé, puis ce que j'entendais dans la voix de ce jeune homme, c'était « Je suis déçu du mariage. C'est pas ce que j'aurais pensé. » Et je me suis mis à réfléchir. Ça m'a tourmenté pendant quelques semaines, pendant quelques jours, puis j'ai prié là-dessus. Puis j'ai fini par écrire une note à ce jeune homme en lui disant, « Sais-tu, il n'y a pas tellement longtemps, je pensais comme toi. Le mariage t'a surévalué. Qu'est-ce qui a changé? C'est quand je me suis approché de Dieu, puis que j'ai commencé à considérer pourquoi Dieu avait mis le mariage, plutôt que de chercher qu'est-ce que le mariage a de bon pour moi. » Autrement dit, j'ai transformé ma pensée, Seigneur Jésus a transformé ma pensée pour m'amener à voir avec ses yeux, puis à écouter mon épouse avec son cœur, puis à prier pour que lui intervienne, pour que quand mon cœur tordu n'aime pas assez mon épouse, que Seigneur Jésus intervienne, puis fasse en sorte que j'aime mon épouse, puis qu'il dépose son amour dans mon cœur pour elle. Ça a commencé à transformer ma relation avec mon épouse, ça a commencé à transformer ma relation, à voir l'intimité avec les gens autour de moi. En tout cas, ça a transformé ma vision de la vie chrétienne. Mais ça ne s'est pas fait dans une journée. Ça s'est fait avec du travail, ça s'est fait avec pleurs, ça s'est fait avec parfois rire aussi. Le fait, souvent je dis à mon épouse, le fait de recevoir des couples chez nous puis de vouloir les aimer comme Jésus les aime, nous a enseigné plus que qu'est-ce qu'on a apporté au couple. Parce que le fait d'être rempli de compassion pour les autres, bien souvent le Seigneur Jésus nous enseigne à travers ça. C'est comme préparer un message, ceux qui ont déjà préparé un message, souvent on est plus béni par le message qu'on est après préparé que les gens qui vont le recevoir. Parce qu'on a fouillé dans les Écritures, on a voulu connaître la pensée de Dieu. C'est qu'on a voulu aller plus creux, pour être capable de l'expliquer, pour être capable de le vivre devant les gens. Puis c'est la même chose dans la vie chrétienne, c'est que plus on cherche à vivre ce comme Dieu veut que nous vivions, essayer de comprendre pourquoi Dieu nous a mis ici sur la terre, essayer de comprendre pourquoi on devrait être rempli de compassion pour les frères et sœurs, bien, ça devient comme vivant dans nos propres vies. Comment on devient saint? Bien, à marcher avec le Seigneur Jésus, puis à le laisser nous révéler sa pensée.
Oui, fait que là, tu es en train d'évoquer justement sa parole, qu'on puisse s'enrichir par sa parole. De plus en plus qu'on s'enrichit de sa parole, il est en train de façonner notre façon de penser, d'avoir sa vision, comme la vision du mariage, tu as fait allusion à ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez ajouter, les frères?
Bien, comme Sylvain dit, c'est un chemin qui n'est pas nécessairement facile. Tu parlais de combats, de pleurs, puis tout ça. Bien, moi, je pense aussi que si on a un désir, je pense que la sainteté, pour moi, ça part d'un objectif que je dois viser pour ma vie. C'est un sentier, un chemin qui n'est pas toujours facile, qui va amener des pleurs, qui va faire mal, mais c'est dans ce temps-là qu'on grandit. Quelqu'un qui fait des poids, ben, un moment donné, ça fait mal parce qu'il a mis beaucoup de poids sur la barre, mais c'est comme ça qu'il va se développer physiquement. Ben, c'est un petit peu comme ça que moi, je vois ma vie spirituelle. Des fois, Dieu, il m'amène à des endroits où ça fait mal. Puis, c'est la même chose aussi dans notre mariage. Des fois, on doit passer par des étapes qui ne sont pas faciles, mais à travers tout ça, ça nous fait grandir beaucoup. Puis, un des moyens, dans le contexte de la sainteté, je crois que c'est la confession. La confession est un élément important dans ce cheminement-là. Alors, autant avec Dieu qu'avec notre épouse.
Puis la confession, c'est raconter. Hein? Il n'y a rien de compliqué dans ça. Hein? Vas-y, Alain.
C'était juste pour mentionner aussi l'amitié spirituelle. Avoir des gens avec qui faire ce chemin-là dont Pierre est en train de parler parce que c'est difficile. Sylvain en a déjà parlé aussi. Pierre aussi, tu as soulevé le sujet de la pornographie. C'est une addiction, la pornographie. Ça produit le même effet dans le cerveau que l'alcool envers un alcoolique, que le jeu compulsif, que plein d'autres choses. Ça crée un shot de dopamine dans le cerveau. Une molécule, on appelle ça la molécule du plaisir ou je ne sais pas quoi, là, l'hormone du plaisir. On a besoin d'aide pour marcher sur ce chemin-là qui va être ardu. Moi, j'ai eu le privilège dans la dernière année de créer vraiment de belles amitiés avec une gang de gars de notre groupe Connexion. On s'est rapprochés, on est allé faire une randonnée dans une montagne l'automne passé, au mois de septembre, puis ça nous a rapprochés. Maintenant, ces gars-là, je sais que n'importe quel de ces gars-là, je pourrais les approcher, les appeler, leur envoyer un message, les rencontrer pour parler de mes combats, pour qu'eux puissent parler de leurs combats aussi. Fait que, tu sais, la communauté, l'amitié, de pouvoir avoir des relations assez intimes avec d'autres chrétiens, frères, les gars, je gère les frères, les sœurs avec les sœurs, mais c'est pas une bonne idée nécessairement d'aller partager des problèmes de pornographie avec une sœur de l'Église, selon moi, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais quand même, de pouvoir partager ça, se soutenir les uns les autres, c'est tellement précieux. Nous, on en a joué beaucoup dans la dernière année. Je sais qu'il y a des groupes qui se rencontrent les lundis, ça s'appelle les porteurs d'armes, des hommes aussi qui se soutiennent ensemble, il y a des femmes aussi qui sont là-dedans. Alors, en tout cas, on en a tellement besoin ici.
Oui, puis je pense que une des choses, j'avais lu un livre sur les hommes, le ministère d'hommes à un moment donné, puis les gars ont tendance à s'isoler. Hein? Et ça, c'est un effort pour nous autres. On dirait que les femmes communiquent plus naturellement. Mais nous autres, les gars, moi, mon ami, je te dis qu'on reste dans notre petit coin, puis on s'emmure, on fait nos affaires. Et il faut franchir cette ligne-là, puis bâtir de belles relations.
Si je peux juste ajouter, puis faire du pouce sur ce que tu dis. Il n'y a pas juste les gars qui ont tendance à s'isoler. Les couples ont tendance à s'isoler. Ouais. Tout le monde a tendance à s'isoler. C'est la stratégie de l'ennemi de nous isoler. Le lion, hein, il est comme quand on regarde c'est quoi le lion fait, il isole des proies. Ouais. Il ne s'attaque pas au plus fort du troupeau. Non, il attend qu'il y en ait un qui traîne en arrière du troupeau, puis là, il l'attaque pour le manger. Mais l'ennemi fait la même chose avec les chrétiens. L'exemple du lion que Paul y donne, comme un lion rugissant, C'est super comme exemple, parce que ça nous amène là. Les couples, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Oups, ils sortiraient, nous autres, on ne va pas bien. Fait qu'on fait, l'Église, ils ne veulent pas savoir qu'on ne va pas bien. Le frère qui ne va pas bien.
On a peur d'être jugé.
Ça ne va pas dans ma vie. Mais non, mais l'Église, c'est pour ça.
Ouais.
L'Église, c'est justement pour nous aider, pour nous encourager, pour nous exhorter à venir ensemble, puis à prier ensemble, puis à amener nos problèmes ensemble devant Dieu, pour qu'il nous aide à nous en sortir et à nous libérer.
Amen. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon pour des couples, c'est bon pour des célibataires. Hein? Ça touche tout le monde ici. Là. Le temps passe très vite. La colère, un petit sujet, pas compliqué. La colère. Vous mettez-vous en colère des fois, vous autres. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la colère?
Bien, moi, j'aimerais ça en parler parce que c'est probablement mon plus grand combat, la colère. Vous pourriez, peut-être que ceux qui ne me connaissent pas personnellement ou intimement vous seriez surpris de ça. Vous me voyez souvent sourire sur le stage le dimanche matin. J'ai pas l'air d'un gars qui se met en colère trop souvent ou trop fort, mais vous pouvez parler à ma femme. Était ici, là, mais là, j'ai vu, elle est partie, tu vois.
Ben, la mienne aussi. Ça va pas bien. Ça va pas bien, notre affaire.
Mais il y a comme une incompatibilité entre l'idée de, disons, d'être en colère les uns avec les autres ou avec son épouse ou avec ses enfants, d'entretenir puis de nourrir de la colère pour d'autres personnes d'une manière malsaine. C'est comme incompatible avec... après ça, se revirer de bord puis prier le Seigneur, tu sais, sans, avec une conscience tranquille, finalement. Puis moi, j'ai remarqué que dans mes... c'est un combat que je mène, donc c'est pas quelque chose sur lequel j'ai gagné, mais c'est quelque chose vraiment que, par la grâce de Dieu, tu sais, j'avance dans ce combat-là. J'ai remarqué que ma colère, même s'il n'est pas dirigé toujours envers des personnes, parfois c'est envers des situations qui m'arrivent, qui vont me fâcher, puis là, je vais me mettre en colère, je vais être irrité. Ma colère est accompagnée, finalement, d'une colère envers Dieu. Même quand je j'ai pas remarqué que c'était ça, quand je prends le temps de m'arrêter puis de méditer sur qu'est-ce qui vient de se passer ou qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, je remarque que ma colère, en fin de compte, est en train d'exposer, est en train de mettre à la lumière un peu un complexe de divinité. En anglais, ils appellent ça un « God complex ». C'est l'idée que souvent, quand je me mets en colère, des fois, je ne m'en rends même pas compte, mais je commence à me prendre pour un Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'aimerais ça que tout me soit dû. J'aimerais ça que ma volonté puisse s'accomplir dans un contrôle total de mon environnement. Quand je me mets en colère, c'est comme une réaction au fait que non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mes enfants ne devraient pas être aussi fatigants ou se chicaner comme ça, puis ça vient mériter. Ou si tu fais un accident de voiture, là, tu peux te mettre en colère. Puis là, on commence à il y a comme un aspect de la colère, c'est normal, tu sais, comme devant un péché ou devant une injustice. Je pense que la réaction normale, c'est de se mettre en colère. Même il y a des passages dans le Nouveau Testament, puis dans l'Ancien Testament, qui disent si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Fait qu'il y a de la place pour une colère qui est juste, mais je sais que dans ma vie, quand je me mets en colère d'une manière pas juste, d'une manière mauvaise, c'est un peu comme une déclaration que Dieu, tu as vraiment manqué ton coup là, en tant que Dieu. Si j'avais été à ta place, je n'aurais pas laissé ces circonstances-là arriver dans ma vie. J'aurais comme arrangé les affaires différemment pour que ça aille à ma façon, pour que ça aille selon ma volonté, pour que mon royaume à moi puisse s'accomplir en quelque sorte. Il y a comme un désir de vouloir contrôler. En tout cas, puis j'ai remarqué que même quand, au départ, je n'avais pas discerné que ma colère était dirigée envers Dieu, c'est un peu ça qui se passe quand j'ai de la colère dans mon cœur. Envers d'autres ou envers des circonstances, quand je commence à examiner mon propre cœur, le Seigneur me montre, c'est quoi, dans le fond, tu m'en veux à moi? Le Seigneur me montre ça, tu m'en veux à moi? D'être pas un Dieu assez souverain à ton goût ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que c'est vraiment c'est important, selon moi, de discerner notre cœur quand on se met en colère, parce que c'est parfois on a raison de se mettre en colère. Mmh. C'est une émotion, la colère. Hein? C'est même quelque chose, des fois, qui vient dans notre cœur sans qu'on l'ait commandé. Là. On ressent. C'est une émotion qu'on peut ressentir. Mmh. Maintenant, on fait bien de s'arrêter puis d'évaluer cette émotion-là au lieu de juste agir sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère, puis de faire quelque chose qu'on pourrait regretter. Puis, dans ce combat-là, j'ai quelqu'un dans les deux dernières années qui m'a aidé, un pasteur en Ontario. Puis, ça fait du bien d'en parler avec quelqu'un, puis d'avoir un regard extérieur d'une personne qui peut comme te montrer des affaires que tu n'avais pas vues dans ton propre cœur. T'sais. Encore une fois, l'amitié spirituelle. Puis, donner le droit, par exemple, à mon épouse de ne pas me laisser me mettre en colère puis partir fou dans ma colère, tu sais. Puis de s'exprimer, elle aussi, tu sais.
OK. Hey, merci beaucoup. Hein? On les remercie d'avoir les belles richesses ce matin. Moi, j'aimerais inviter, je pense qu'on a besoin vraiment de prier pour les hommes. Alors, tous les hommes de l'Assemblée, j'aimerais vous encourager à vous lever. Trouvez-vous un autre gars dans l'Assemblée, puis mettez votre main sur son épaule, là. Levez-vous, tous les hommes d'Assemblée, là. Et puis, on veut prier les uns pour les autres. Ça va? Oui, trouvez-vous quelqu'un, là. C'est bon. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien on veut te remercier pour ta parole qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous fait du bien à l'âme, qui nous nourrit, nous édifie. Merci pour les frères ce matin et leur cœur. Et on te prie, Seigneur, pour chacun des hommes ici de l'Assemblée ce matin, que tu puisses mettre ta main sur ces hommes, que tu puisses les bénir abondamment, leur faire du bien, les faire grandir dans ce que nous avons vu ce matin. Ce que nous voulons, c'est que chacun ici ce matin puisse prendre cette décision de vouloir avancer dans leur relation avec toi pour t'honorer, que leur vie puisse t'honorer, leur vie de sainteté, qu'ils puissent grandir en sainteté. On te prie pour chacun d'entre nous et que notre vie puisse être une bénédiction pour les autres, pour les membres de notre famille, pour notre épouse, que notre épouse se sente inspirée à grandir, à s'approcher de toi par notre exemple, que nous soyons des modèles, comme Paul qui dit « Soyez des hommes ». Eh bien, Seigneur, nous voulons être des hommes de Dieu. Et on te prie, Seigneur, pour cette assemblée. Et s'il y a des gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas, on te prie que ce matin, ils puissent s'approcher de toi par la foi, avec humilité. On te prie pour des hommes qui se sont peut-être éloignés de toi, que ce matin, ils puissent s'approcher de toi avec humilité. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors, fais cette œuvre en chacun d'entre nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.